On est de retour et on va s'entretenir au téléphone avec Mme Josée Morneau de la DPJ. Titre au complet, tu vas me le rappeler.
Directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale de la Montérégie.
Mme Morneau, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est quand même pas des mauvaises nouvelles, en tout cas en ce qui nous concerne, que vous avez dévoilé la semaine dernière.
En fait, vous parlez là, du nombre de signalements qui a été traité pour la région de Sorel. Effectivement, c'est 608 enfants qui ont été signalés cette année. Je vous dirais que le nombre est petit si on le compare à l'ensemble de la Montérégie, parce qu'il y a 13 626 signalements qui ont été faits pour l'ensemble de la Montérégie. Par contre, je vous dirais que ce chiffre-là, il faut le mettre en lien avec le nombre de jeunes sur la région. Donc, étant donné qu'il y a moins de jeunes dans la région de Sorel qu'on peut trouver ailleurs sur le territoire, c'est sûr que c'est normal que le chiffre soit plus petit pour votre région.
Et le chiffre de nombre de signalements ne sont pas nécessairement des signalements retenus aussi?
Non, en fait, sur le nombre de signalements qui a été reçu pour la région de Sorel, il y a à peu près 40 % de ces signalements-là qui sont retenus.
Madame Morneau, la semaine dernière, en conférence de presse, vous aviez débuté et insisté à plusieurs reprises sur le travail fait par les travailleurs de la DPJ. D'ailleurs, on utilise le mot signalement et sans jouer sur les mots, là, souvent les gens ont tendance à dire une plainte à la DPJ, mais c'est un signalement, hein, parce qu'on fait jamais une plainte à la DPJ, mais on signale un enfant.
Effectivement, j'aime bien la nuance que vous apportez. Dans le fond, quand on appelle à la protection de la jeunesse, on signale une préoccupation par rapport à un enfant et on le fait dans l'intérêt de l'enfant. Et jamais c'est fait contre le parent, c'est vraiment fait pour l'enfant.
C'est une nuance importante à faire. Et le nombre de signalements qui est à la hausse, faut comprendre aussi que les gens ont peut-être moins peur ou sont peut-être plus interpellés à signaler une situation, là.
En fait, on fait beaucoup de sensibilisation auprès de la population pour inviter les gens à nous faire un appel s'ils sont préoccupés par la situation de l'enfant. Et aussi, on insiste fortement sur le fait que chaque personne qui nous appelle, c'est confidentiel. Donc, les gens peuvent être en sécurité, s'assurer que leur nom ne sera jamais divulgué à la famille qui est concernée par la situation. Donc, ça, c'est sûr que ça amène une plus grande confiance, puis peut-être des fois, ça permet d'enlever les craintes là, par rapport à un appel qui pourrait être fait à la protection de la jeunesse.
Si on regardait un peu la photo que vous nous avez présentée la semaine dernière, une photo là, de la région, quelles sont les problématiques les plus rencontrées?
Je vous dirais que c'est assurément, dans la région de Sorel, comme partout en Montérégie, c'est la problématique de la négligence qui est la plus signalée.
Qu'est-ce que la négligence, Mme Morneau?
La négligence, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de la négligence physique, c'est-à-dire au niveau des vêtements de l'enfant, son environnement physique. Ça peut être de la négligence éducative aussi, dans l'incapacité de bien répondre aux besoins éducatifs de l'enfant. Donc, c'est vraiment un parent qui ne réussit pas à répondre aux besoins de base de l'enfant, autant au niveau de sa sécurité ou de l'accompagner dans son développement de façon minimale, là.
Quand vous nous parlez de difficultés vécues par les parents aussi, vous prenez le temps aussi de mentionner que l'enfant n'est pas nécessairement déraciné de son milieu. C'est un dernier recours, ça.
Bien, en fait, un des principes de la loi de la protection de la jeunesse, c'est que le parent est le premier responsable de son enfant et l'ensemble des interventions qu'on va faire vont viser à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Si jamais la situation est tellement difficile et on doit retirer l'enfant de son milieu familial, on va tenter que ce soit pour la période la plus courte possible, donc de mettre en œuvre tous les services autour de cette famille-là, autant pour le parent que pour l'enfant, afin qu'il puisse avoir une amélioration de la situation et que le parent puisse reprendre ses responsabilités parentales.
Comment ça se passe lorsque, comme on le disait tantôt, lorsqu'on a un signalement? D'abord, qui signale? Qui, en majorité, sont les intervenants qui... J'allais dire ose, mais parce que dans bien des cas, c'est pas facile. Là. C'est probablement une torture mentale de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'interviens ou j'interviens pas. Selon vos statistiques, quels sont les gens qui sont le plus portés à amener des signalements?
Les gens qui nous signalent le plus, c'est les gens qui travaillent dans les différents organismes. Si on parle de tous les gens là, qui puissent être autour de l'enfant ou autour d'un parent pour être à même de constater les difficultés de ces gens-là. On parle aussi de personnes qui nous signalent les milieux scolaires, les milieux de garde et les milieux policiers aussi sont quand même des gens qui signalent beaucoup.
Ça fait partie des organismes dont vous parlez, là.
Bien, en fait, les organismes, là, je vous dirais que c'est à peu près 60 % des personnes qui nous appellent. Le reste, c'est la famille élargie. Ça peut être le parent lui-même aussi, parce que des fois, le parent, il signale sa situation parce qu'il est au pied avec un enfant qui a des difficultés puis il veut avoir de l'aide. Donc, ça peut être le parent lui-même ou un membre de la famille élargie. Et il y a à peu près un 10 % vous êtes à 11 % là, pour la région de Sorel, qui vient de la communauté. Donc, la communauté, c'est le voisin, la voisine, des gens qui ne connaissent pas l'enfant nécessairement en tant que lien de sang, mais plus... une amie de la famille, des voisins, voisines, là, des gens de cette nature-là.
Et quand vous parlez quand vous intervenez, les gens associent la DPJ, « Ah, ils vont m'enlever mon enfant. » Quel genre d'intervention, quelle est la variété d'intervention dont vous disposez là, pour régler la situation?
En fait, dans un premier temps, la première chose qu'on fait, c'est une bonne cueillette de données. Quand on reçoit un signalement, ça ne veut pas dire nécessairement que ce signalement-là va faire l'objet d'une évaluation. Donc, on a différents mécanismes pour faire des vérifications auprès des gens qui puissent connaître cet enfant-là. Souvent, ça se fait auprès des milieux scolaires ou milieux de garde. Et on va chercher un complément d'information pour apprécier davantage la situation. Si on reste avec des inquiétudes, à ce moment-là, ça passe à l'étape suivante qui est évaluer la situation. Donc, aller vraiment dans les familles, prendre le temps avec eux de partager les motifs qui fait qu'on est préoccupé. Donc, si on prend la négligence, d'ouvrir avec les gens sur nos préoccupations par rapport à la négligence et d'apprécier à travers des entrevues qu'on va faire avec des rencontres avec les parents, avec l'enfant et avec des gens qui entourent cette famille-là. On va aller faire une cueillette de données auprès de ces gens-là pour prendre une décision à savoir si la sécurité ou le développement de l'enfant pourrait être en danger. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va proposer de l'aide plus à long terme ou on va proposer aux gens qui ont des difficultés, mais c'est de nature moindre, on va référer ces gens-là vers des organismes à l'extérieur qui pourraient être la nature d'un CLSC, d'avoir des services en santé mentale jeunesse ou même des services pour le parent lui-même.
Quand on vous écoute parler, on sent bien que vos travailleurs, que la DPJ est là comme une ressource d'aide. Cependant, j'imagine que lorsqu'on est travailleur et qu'on cogne à la porte d'un foyer en se présentant comme étant de la DPJ, on rentre dans l'intimité des gens et on ne doit pas nécessairement être bien reçu, être perçu comme une personne qui est là pour nous aider, là.
Mais c'est effectivement pour cette raison-là que cette année, on a voulu rendre hommage aux intervenants de la protection de la jeunesse par la délicatesse et l'importance de leur travail dans la communauté. Il faut se dire que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, donc il faut prendre soin de ces enfants-là. Il faut doubler de précautions pour les enfants qui se trouvent dans une situation de danger. Le spécifique du travail des intervenants en protection de la jeunesse, c'est de travailler dans un cadre qui est non volontaire. Donc, il y a très peu de gens qui appellent eux-mêmes pour venir chercher de l'aide à la protection de la jeunesse. La majorité, c'est un signalement qui vient d'une autre personne. Donc, c'est sûr que c'est un choc. Voir arriver la protection de la jeunesse, vous l'avez dit tantôt, hein, il y a une réputation qui traîne, qui est on va placer les enfants. C'est pas ça qu'on fait. Puis je veux rassurer les gens sur le fait que il y a quand même de 50 à 60 des enfants qui restent dans leur milieu familial. Donc, c'est pas rien. Puis, il y a un autre 15 % à peu près de ces enfants-là qui sont dans la famille élargie. Donc, beaucoup d'enfants ne sont pas déracinés, même si la protection de la jeunesse est dans leur vie. Donc, la première étape de l'intervenant de la protection de la jeunesse, c'est de mettre le parent et l'enfant en confiance et de prendre le temps d'écouter les inquiétudes que les gens peuvent avoir. C'est des gens, les intervenants travaillent avec une clientèle complexe, travaillent avec des gens qui ont des problèmes sévères, c'est-à-dire de santé mentale des fois, de toxicomanie. On côtoie la pauvreté de façon fréquente. Ça peut être des gens qui sont itinérants aussi. Donc, ça prend tout un doigté d'apprivoiser ces gens-là, puis de leur tendre la main pour qu'ils puissent prendre leurs difficultés en main et que ces difficultés-là aient moins d'impact sur les enfants.
On parle aussi beaucoup de ressources qui sont souvent insuffisantes. Pour avoir parlé avec des gens de la DPJ, puis des gens qui ont eu affaire à la DPJ, souvent, on va être frustré par le fait que bon, on peut pas rien faire parce qu'on n'a pas assez les ressources. Est-ce que ça a évolué à travers les années?
Quand vous parlez de ressources, vous parlez de nombre d'intervenants ou d'organismes pour aider?
Ben surtout le nombre d'intervenants, je pense. Là. Les gens auprès de la DPJ, est-ce que vous êtes bien équipés pour suffire à la besogne qui, quand même, si on regarde les statistiques, sont quand même assez lourdes?
Oui, en fait, à travers la dernière année, il y a eu beaucoup d'investissements en jeunesse, d'investissements financiers en jeunesse. On a eu des grosses enveloppes budgétaires, autant pour intervenir au niveau de la protection de la jeunesse, mais aussi pour intervenir au niveau des services psychologiques aux jeunes, pour aussi intervenir auprès des jeunes qui ont des problématiques au niveau de la fugue. Donc, je vous dirais qu'à ce stade-ci, c'est pas l'argent qui manque. Le défi, c'est de s'assurer qu'on va avoir, que notre recrutement va être bon, puis qu'on va être en mesure d'avoir le nombre de gens selon le nombre de postes qu'on a d'afficher, là. Donc, c'est plus le remplacement du personnel, mais en tant que nombre d'intervenants, on en a assez. C'est plus, des fois, on fait face à une pénurie pour remplacer ces gens-là quand ils ont des congés, là.
OK, d'accord. Parce que c'est quand même, c'est ça, là, c'est un travail qui est demandant. On s'implique souvent émotionnellement, j'imagine, du côté des intervenants. Ça doit être dur quand même.
C'est excessivement difficile, je vous dirais que c'est difficile des fois de ne pas apporter les tracas à la maison après. Oui, donc, c'est pas un travail qu'on vient faire de jour, puis que quand on franchit la porte du travail, c'est derrière nous. Il y a des journées, des fois, où ces gens-là ont des décisions difficiles à prendre et ils apportent ces préoccupations-là, ou des fois, d'avoir une confidence d'un enfant, Il y a des foyers québécois qui vivent des choses très, très difficiles. Ouais. Et nous autres, on assiste à ça, on entend ça au quotidien. Donc, au niveau psychologique, ça nécessite des gens qui sont forts. Mais je vous dirais que la majorité des gens, ils sont là pour cette raison-là, parce que ça les habite d'accompagner cette clientèle-là qui est complexe, cette clientèle-là qui a besoin d'une attention particulière, puis ça en devient un défi. Et les gens y trouvent habituellement beaucoup de valorisation malgré la complexité du travail.
Et de l'autre côté, vous travaillez pour des mineurs, donc il y a de belles histoires que vous ne sortirez jamais parce qu'on veut préserver l'anonymat dans tout ça. Mais s'il n'y avait pas de belles histoires, je pense que vous seriez plus là.
Il y a des très belles histoires, puis. Il y a des parents qui partent de loin puis qui réussissent à faire des grands bouts de chemin, à régler des problèmes personnels et qui les amènent à être capables de plus se centrer sur les besoins de leurs enfants. Il y a des enfants qui, par contre, gardent des blessures, puis c'est notre responsabilité pour ces enfants-là d'essayer de leur donner un monde meilleur, puis d'essayer de trouver des alternatives pour que leur projet de vie à eux soit un projet de vie dans lequel ils vont être capables de s'épanouir.
Ben, on espère avoir contribué aujourd'hui un peu à démystifier votre travail et à montrer qu'il y a des bons coups. Malheureusement, je pense que vous êtes victime de trop de désinformation. Alors, si on a pu contribuer aujourd'hui à aider aux gens à comprendre, ben, tant mieux.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Mme José Morneau. Vous êtes directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale de la Montérégie. Au revoir.
Merci, bonne journée.
On fait une courte pause. De l'autre côté, on rencontre Annie Bellumeur du cégep de Sorel-Tracy, en fait, du Centre de formation professionnelle.
On va se faire taper les doigts, là.
Avant de nous expliquer ça, mais je sais que c'est le service aux entreprises qui est impliqué dans ce... Je la regardais là-bas, là, dans le green room, comme ils disent à la télé, qui nous attend. Elle va éclaircir un peu de tout ça. Mais c'est un beau projet.
Ben oui, c'est un beau projet.
Après la pause.